Nous lisons dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le deuxième texte, dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, chapitre 15, versets 16 et 17. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Et encore un dernier passage dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 31. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Voilà, comme nous l'avions vu lors de la dernière prédication sur le contentement il y a 2 semaines, nous comptons sur le soleil de l'Esprit Saint, pour éclairer le cadran de la Bible afin de pouvoir lire l'heure de ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. On a besoin de ce soleil, hein, sur ce cadran que vous avez, pour que nous puissions lire l'heure de l'enseignement que Dieu veut nous donner ce matin. Alors pour marquer le début de l'année 2017, eh bien, nous voulons nous imprégner de cette notion du contentement. Alors, pas juste pour ces 2 dimanches, mais bien sûr dans le but de le vivre toute l'année. Et je prie que l'Éternel puisse faire que ce contentement divin nous accompagne. Nous avons vu la dernière fois, chemin faisant, un premier élément. C'est que le contentement n'est pas automatique. Le contentement n'est pas automatique. Il faut l'apprendre. Enlever les ronces et les épines sur le sentier de la vie qui nous permet ensuite de vivre dans le contentement. C'est vrai que ça demande un effort. Hein. Paul dit dans Philippiens 4, 11, que vous avez aussi sous les yeux, « J'ai appris ». C'était le premier mot de la prédication la dernière fois qu'on a développé « apprendre ». Nous avions aussi défini le deuxième mot, c'était « quoi ». Qu'est-ce que le contentement? C'est quoi le contentement? Alors, si je tente de le résumer, je pourrais le dire ainsi, c'est un art divin d'un esprit rempli de grâce et de reconnaissance, un art divin d'un esprit rempli de grâce et de reconnaissance pour ce qu'il est et ce qu'il a. C'est ça, en fait, le contentement. Hein? C'est l'art divin d'un esprit rempli de grâce, de reconnaissance pour ce qu'il est et ce qu'il a. Ce qui aura pour conséquence un comportement équilibré dans toutes sortes de circonstances, à une douce disposition de l'esprit. On avait vu donc le « apprendre quoi » et puis on avait aussi vu « pourquoi ». Et en cherchant les raisons de pourquoi, en fait, apprendre et vivre le contentement, eh bien, nous avons vu que le contentement était quelque chose d'excellent. Excellent. Et je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour moi, à la fin de la dernière prédication, j'avais envie d'être content. J'avais envie de vivre ce contentement, et c'est ce que je désire aussi, bien sûr, pour chacun de nous. Donc, la dernière fois, on a parlé de apprendre quoi, pourquoi. Et comme promis, aujourd'hui, nous allons voir de nouveau, trois mots qu'on peut prendre hein, pour se souvenir. La source. Hein, d'où vient le contentement? Quelle est la source du contentement? On parlera de l'inverse du contentement pour mieux apprécier hein, le contentement. Et troisièmement, le comment. Ben, comment vivre le contentement hein? La source, l'inverse pour mieux l'apprécier et le comment. Voilà le programme d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'être content? La source. Alors, chaque fois, on a deux parties hein, sous chaque point. Le premier... Eh bien, c'est que le chrétien peut et quelque part doit être content. Et deuxièmement, nous verrons que nous pouvons être contents car toutes choses concourent au bien, même les souffrances. Et là, on prendra un peu de temps pour dire, mais attends, mais comment? Quelle est la raison qui pourrait me motiver à être content même dans les souffrances? On va le voir d'ici quelques instants. Mais premièrement, le chrétien peut et doit être content. Et j'aimerais vous donner quatre raisons qui soutiennent cette affirmation. Parce que mon but, c'est de vous convaincre à nouveau. Hein? Donc, le chrétien possède... ce qui peut le contenter. Le chrétien possède ce qui peut le contenter. Dieu a donné le Christ au chrétien. C'est la perle de grand prix, le diamant étincelant. Hein? Il est dit dans l'Écriture, vous avez tout pleinement en Christ. Tout, tout pleinement en Christ. Après, il faut encore le saisir, évidemment. Mais vous avez tout pleinement en Christ. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qui m'a particulièrement marqué, lors d'un témoignage de M. Peltzer. Je ne sais pas si vous aviez entendu son témoignage. Mais voici ce qu'il disait. Hein, alors qu'il cherchait et qu'on le poussait à vivre le parler en langue, il était dans un contexte où on lui disait oh, « il faut parler en langue pour être un vrai chrétien », et puis ça ne venait pas. Par la grâce de Dieu, il a compris qu'il avait tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Pas besoin d'un don personnel particulier quelconque pour être content. Il suffit de Christ qui donne tout pleinement. Il nous remplit de sa grâce et notre âme devient, si on prend un peu une image, un firmament constellé d'étoiles scintillantes. Hein, quand Christ vient, quand on le saisit, c'est comme d'un coup plein d'étoiles. Il nous donne des richesses véritables qui ne passent pas. Les richesses de ce monde, disait Augustin, sont remplies de pauvreté. Et c'est vrai, parce qu'elles ne peuvent pas enrichir l'âme. Dieu donne à son peuple l'or des miséricordes spirituelles. Allons-nous nous plaindre s'il ne nous donne pas l'écrin, mais seulement le bijou? S'il retient les centimes pour nous donner les millions? Étant croyants, nous sommes héritiers de toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, nous en sommes héritiers. Le chrétien peut et doit être content parce qu'il a tout ce qu'il possède pour le contenter. La deuxième raison que le chrétien peut et doit être content, c'est que le contentement est en accord avec la prière du chrétien. Le contentement est en accord avec la prière du chrétien. Nous prions que ta volonté soit faite. Vous êtes d'accord, quand on prie, ben Seigneur, que ta volonté, on lui demande des choses, mais on dit, mais que ta volonté soit faite. Alors, Dieu contrôle et maîtrise parfaitement tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive, toutes les conditions que nous traversons. Et ça, c'est selon lui ce qui est le meilleur, selon sa volonté. Pourquoi, alors que nous sommes dans sa volonté, nous nous mécontenterions? Soit nous ne sommes pas sérieux lorsque nous prions en disant que ta volonté soit faite, c'est quelque part on ne veut pas qu'il la fasse, ou soit eh bien, nous ne sommes pas conséquents dans ce que nous vivons. Le chrétien... peu, il doit être content, car le mécontentement dément la prière du chrétien. C'est dire quelque part à Dieu que ta volonté soit faite, puis quand il l'a fait, c'est en fait de le critiquer. Mais non, le contentement, nous le vivons parce qu'il est en accord avec nos prières, c'est-à-dire dans l'état où je suis, c'est l'état que Dieu trouve bon pour moi maintenant. Troisième raison que le chrétien peut et doit être content, c'est que Dieu aime le mécontentement. Non, il faut me corriger tout de suite là. Dieu aime le contentement et Satan aime le mécontentement. Dieu aime le contentement et Satan aime le mécontentement. Dans sa providence, Dieu atteint toujours son but. Et cela lui fait grand plaisir de voir ses enfants soumis et contents et d'être satisfaits de ce qu'il leur donne. Satan cherche par tous les moyens le mécontentement, que ce soit par des moqueries, des difficultés de toutes sortes, comme il a fait avec Job, qu'il a cherché à rendre mécontent en fait. Mais notre contentement mécontente Satan. C'est bon ça, Notre contentement mécontente Satan. La repentance provoque la joie des anges, le mécontentement, la joie des démons. Le diable danse sur les discordes, chante dans le mécontentement. C'est là son feu d'artifice. Il vit une sorte de félicité à nous voir nous torturer dans notre propre difficulté. Mais comme le dit Watson, nous frustrons cet impie dessein par un contentement devant Dieu. Le chrétien peut et doit être content, car Dieu aime le contentement et Satan aime le mécontentement. La quatrième raison que le chrétien peut et doit être content, c'est que le contentement offre au chrétien la victoire sur lui-même. Le contentement offre la victoire, enfin au chrétien la victoire sur lui-même. Être mécontent s'accorde avec la chair et le sang, en fait. Mais content en toutes circonstances, que ce soit dans la difficulté, la maladie, le chômage, etc., cela surpasse les capacités naturelles. Il s'agit d'une sainte valeur que seul l'Esprit de Dieu peut nous insuffler. Vous savez, il ne faut pas une grande puissance pour que l'homme se livre à ses passions. Mais être content de renoncer à soi-même est un art sacré qui vient de Dieu, qui procure une victoire qui a des effets éternels. Le contentement est un don de Dieu que l'homme doit apprendre à vivre. Comme on avait déjà vu, c'est comme la foi, on la reçoit, c'est pas Dieu qui la met en pratique, c'est nous. Le contentement, on le reçoit de Dieu, c'est à nous de le mettre en pratique. Le chrétien, donc, peut et doit être content, car le contentement offre au chrétien la victoire sur lui-même. Là, j'aurais envie de beaucoup développer, mais on reste déjà sur cette notion-là. Arrivons maintenant à la deuxième partie de ce premier point qui nous parle de la source du contentement. Content, car toute chose coopère au bien, même les souffrances. Il est dit dans Romains 8, 28, qu'on a lu tout à l'heure, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme je dis toujours, ne le lisez pas sans le verset 29, évidemment. Parce que les mauvaises, autant que les bonnes choses, concourent à ce bien qui est d'être rendu semblable à Christ. C'est ça le bien. Concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est d'être rendu semblable à Christ. On pourrait dire toutes choses concourent à nous rendre semblables à Christ. Alors pourquoi se mécontenter de ce qui concourt à notre bien? Les circonstances, on peut dire, c'est des médicaments spirituels qui nous guérissent. Nous pouvons nous demander, mais alors, comment les maux, l'affliction peuvent concourir à notre bien? Eh bien, on va voir cinq manières pour un petit peu saisir cette notion dans les souffrances, dans les difficultés. La première, c'est que les souffrances, ce sont des disciplines qui nous enseignent. Les souffrances, c'est des disciplines qui nous enseignent l'humilité, la repentance et la ferveur dans la prière. Généralement, l'orgueil ne s'accorde pas bien avec la souffrance. Parce que mis à mal par l'épreuve devant Dieu, on développe plutôt l'humilité, en fait. On se rend compte de notre petitesse. La souffrance amène invariablement la question, pourquoi? C'est vrai, quand on souffre, c'est une question qui vient. Ce n'est pas une fausse question. Pourquoi? Mais ce pourquoi devrait nous pousser à nous examiner, à confesser nos péchés, et à nous confier dans l'œuvre de Christ. Dieu a souvent utilisé la souffrance pour faire revenir son peuple de ses mauvaises voies. J'aime bien cette notion que la repentance, quelque part, c'est comme le bitume du chemin du contentement. La repentance va amener le contentement. Et il est bien connu que c'est lorsque nous sommes en difficulté que nous prions le plus. La prière est un ingrédient essentiel au contentement. Donc quand on est en difficulté, on prie plus. Donc comme on prie plus, on est plus sur le chemin du contentement. Deuxième manière qui montre les souffrances qu'on court à notre bien, c'est que ce sont des purgatifs qui éloignent le péché de nous. Là, je vais vous citer Watson qui le dit avec une belle image, qui dit ceci. Les labours, c'est un peu une image paysanne, hein, j'espère que vous arrivez à imaginer. Hein. Donc, les labours détruisent les ronces et les mauvaises herbes dans le champ, et la herse brise les mottes dures. Dieu laboure son peuple au moyen de l'affliction afin de tuer les ronces du péché, et il passe la herse des difficultés pour briser les dures mottes de l'impénitence. De la sorte, le cœur de son peuple est préparé pour la réception des semences de la grâce. Si tel en est le résultat, pourquoi abriter le mécontentement? Pourquoi se mécontenter quand Dieu prépare la terre aux graines de la grâce? Plus nous sommes loin du péché, plus nous sommes près du contentement. Plus nous sommes loin du péché, plus nous sommes près du contentement. Donc si les difficultés nous éloigne du péché, eh bien, nous rapproche du contentement. Troisième manière qui montre les souffrances qu'on court à notre bien, ce sont des exercices qui développent la grâce en nous. Des exercices qui développent la grâce en nous. En fait, un arbre planté en plein vent s'enracinera beaucoup plus profondément qu'un arbre planté dans un coin tout à fait ombragé, hein, où il n'a aucun vent. Eh bien, la grâce développée par la souffrance va s'enraciner beaucoup plus profondément et sera le terreau du contentement. Quatrième manière qui montre la souffrance qu'on court aussi à notre bien, ce sont des sentiers qui amènent la présence de Dieu en nous. Des sentiers qui amènent la présence de Dieu en nous. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Mais bien souvent, nous recevons plus d'assistance lorsque nous sommes plus éprouvés. Combien de personnes me l'ont déjà dit, j'ai aussi déjà vécu, que quand on est dans un moment de souffrance, c'est là que parfois Dieu manifeste encore plus sa présence. Hein, psaume 91, verset 15 dit par exemple, « Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. » Pourquoi serions-nous mécontents si nous bénéficions d'une plus grande présence de Dieu? Cinquième manière de montrer que les souffrances concourent aussi à notre bien, ce sont des artisans d'un poids éternel de gloire. Des artisans d'un poids éternel de gloire. Alors, comprenez bien, les souffrances ne nous acquièrent pas la gloire. Je ne vais pas souffrir pour avoir la gloire, évidemment. Il ne s'agit pas de chercher à souffrir pour entrer en gloire. Mais les souffrances que Dieu permet dans notre vie est le chemin qui conduit à la gloire. Comme pour Christ, selon Hébreux 2:10, Dieu nous élève à la perfection par la souffrance, c'est ce qu'il dit de Christ aussi. Donc dans la difficulté, plutôt que de laisser l'emprise au mécontentement, bénissons le Seigneur. Si nous n'avions pas rencontré une telle épreuve, nous aurions pu finir peut-être même jusqu'en enfer, si c'est le moment où Dieu nous a transformés dans sa grâce. Ou bien nous ne grandirions pas dans la sainteté. Le contentement est un devoir possible et désirable en toutes circonstances, lorsque nous regardons cela du point de vue de Dieu, évidemment. Réfléchissons maintenant par contraste. Hein. Nous avons vu ensemble que le contentement, eh bien, la source vient de Dieu. Les cinq éléments que je viens de vous montrer par rapport à comment voir la souffrance d'une manière qui nous amène du bien, c'est quand on le voit du point de vue de Dieu. Et j'aimerais maintenant vous emmener dans cette réflexion de l'inverse du contentement pour mieux apprécier le contentement. Donc on verra une première partie qui montre que l'inverse du contentement est quelque chose de terrible. Puis un petit aparté où j'aimerais quand même vous parler de quelques éléments où il ne faut pas être content. Mais bon, on verra ça. Premièrement, l'inverse du contentement qui est terrible. Est-ce que vous vous souvenez déjà d'avoir eu de la fièvre? C'est un peu la saison maintenant, hein? L'hiver est là. Les grippes sont là. La fièvre, ça vous dit quelque chose, la fièvre? On se met dans un sens, pas cinq minutes qu'on n'est déjà pas bien, on doit se retourner dans un autre sens. Ça va vous arriver? Comprenez ça, hein? Donc on n'est pas à une seule position, on est bien. Eh bien, le mécontentement, c'est exactement ça. on n'est bien dans aucune situation. Pour bien saisir que le mécontentement est mauvais, j'aimerais vous le développer en quatre aspects. Le mécontentement, est indigne d'un chrétien. Il est indigne. Pourquoi ? Nous faisons profession de foi, de vivre par la foi, et nous ne serions pas contents ? Hébreux 11.1, si quelqu'un vous demande c'est quoi la foi ? Vous répondez Hébreux 11.1. Bon, après, le mieux, c'est de savoir qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux 11.1, évidemment. Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi voit au-delà de ce qui frappe les regards. Elle se nourrit des promesses. Donc si on n'est pas content de notre situation physique qu'on voit autour de nous, puis qu'on ne voit pas au-delà, comment est-ce qu'on peut dire qu'on vit dans la foi ? La foi, c'est justement voir au-delà. Où est donc la foi d'un chrétien abattu en raison d'un manque dans la vie ? La foi authentique se confie en Dieu, mais là où elle ne peut le recevoir, elle ne se confie pas. On ne se confie pas dans des choses où on ne peut pas recevoir, en fait, ce dont nous avons besoin. C'est auprès de Dieu. Le mécontentement est vraiment indigne de celui qui dit qu'il vit par la foi. Le deuxième aspect de ce grand mal, c'est que le péché du mécontentement, j'aimerais vous parler du péché du mécontentement. Il y a trois parties, il y a ses causes, ce qui l'accompagne et ses conséquences. Donc le mécontentement est un péché en raison de ses causes, de ce qui l'accompagne et de ses conséquences. Celui qui s'estime meilleur que les autres se plaint que Dieu ne l'a pas placé plus haut que les autres. C'est ainsi que le vase d'argile dit au potier, « Pourquoi m'as-tu fait comme ça ?» Vous aurez reconnu ici l'orgueil qui est la cause du mécontentement. Mais ce n'est pas le seul péché qui cause le mécontentement. Vous avez l'envie, l'avidité, la jalousie, l'insatisfaction, la convoitise, et tant d'autres péchés sont la cause du mécontentement. Donc le mécontentement est un péché par ses causes. Mais ce n'est pas tout. Le mécontentement est également accompagné d'une multitude de maux. J'aimerais juste vous en dire deux, parce que là on pourrait faire toute une liste, mais juste deux. Le premier, c'est la tristesse maussade. Le mécontent dit « Je fais bien de m'irriter ». Et parce qu'il n'a pas ce qu'il désire, il ne se réjouit plus en Dieu et ne le sert plus. Voilà une conséquence du mécontentement. Ou une deuxième, l'ingratitude. Un chrétien content, non, il ne fera pas ce que je vais dire maintenant. C'est un chrétien mécontent, se plaint même au milieu des bénédictions. Comme Adam qui a péché alors qu'il était dans le paradis que Dieu lui avait fait. C'est très fort ça. Alors on a vu les causes qui démontrent que le mécontentement est un péché, ce qui l'accompagne, mais ses conséquences aussi. Et elles sont effrayantes. Le mécontentement empêche l'homme de ressembler à Christ. Il conduit plutôt l'homme à ressembler au diable. Le mécontentement, c'est quelque chose de terrible, j'aimerais qu'on le comprenne, pour ça je vous parle de tout cela. Le mécontentement tourmente aussi l'entourage. Les autres sont touchés par notre mécontentement. Un seul instrument désaccordé ruine toute la musique. Un seul esprit mécontentement sème la discorde dans tout le voisinage, dans toute la famille, dans toute l'église. Fuyons ce péché terrible du mécontentement. Mais je continue, j'aimerais vraiment qu'on le fuit, vraiment, ce mécontentement. Le mécontentement est un mal futile et vain. Un mal futile et vain. Ça ne sert même à rien, le mécontentement. La tristesse et la douleur sont présentes dans notre vie. C'est normal. La tristesse et de la douleur, ça fait partie de ce que l'on vit ici-bas. Ce n'est pas un péché. Mais le mécontentement est un péché. Le mécontentement brise le cœur, dérobe les consolations comme la pie qui vole tout ce qui brille. C'est ça le mécontentement. Ça pique toutes les consolations. Face à son ricin desséché, ça vous rappelle quelque chose, hein ? C'est Jonas. Jonas, il voit son ricin desséché et il est mécontent. Il est tellement mécontent qu'il ne se rappelle même plus qu'il était sauvé de mourir dans un poisson. Juste parce que le ricin, il avait séché. Le mécontentement, c'est terrible, les amis. C'est absolument terrible. Le mécontentement n'allège pas le fardeau. Il alourdit l'épreuve. Le mécontentement, bien souvent, même allonge les difficultés. Face à Dieu, notre mécontentement n'obtient rien de Dieu. Enfin, si, la correction de Dieu. n'est pas par notre mécontentement qu'on recevra la bénédiction. Par notre mécontentement, on recevra la correction de Dieu qui désire que nous entrions dans le contentement, justement. Souvenez le peuple d'Israël. Ils étaient une dizaine de jours du pays promis, tout près, peut-être même un peu moins. Eh bien, par son mécontentement, ils ont encore erré 40 ans dans le désert. C'était une dizaine de jours. Ils ont encore erré 40 ans dans le désert. Quelle folie que le mécontentement. Un dernier aspect. Pour vraiment que vous compreniez que le mécontentement, c'est mauvais. Le mécontentement n'en a jamais assez. Il n'en a jamais assez. On n'éteint pas un incendie en y mettant de l'huile ou du bois. Mais comment est-ce qu'on éteint un incendie? Vous savez comment on éteint un incendie? C'est en enlevant tout ce qui se consume. Si on enlève ce qui se consume, il n'y a plus de feu. Eh bien, ce n'est pas en donnant au mécontentement ce qu'il aimerait recevoir que vous allez le contenter. C'est en fait en enlevant toutes les idoles qui le poussent au mécontentement que ce mal pourrait être combattu. Ce n'est pas en donnant ce que le mécontent a envie de recevoir. Il va continuer de mécontent. Il en voudra encore. C'est en enlevant toutes les idoles qui poussent au mécontentement. Alors j'espère qu'avec ces différents aspects que je viens de vous montrer, vous êtes avec moi convaincus que le mécontentement, c'est vraiment mauvais et qu'on va le combattre, on ne va pas le chercher. Mais j'aimerais vous parler de trois domaines interdits au contentement quand même. Il y a trois domaines interdits au contentement. Pourtant, je vous ai toujours dit qu'il fallait être content dans toute situation, là où Dieu nous place dans sa providence. C'est vrai, mais il existe trois domaines qu'il est de notre devoir de ne pas nous contenter. Des conditions dans lesquelles on ne doit pas rester. Le premier domaine, c'est dans notre état naturel qui mène en enfer. On ne doit pas se contenter d'être dans notre état naturel qui nous amène en enfer. Parce que le pécheur, dans son état absolument naturel, dépourvu de la grâce de Dieu, est sous la colère de Dieu. Ne soyons pas contents d'être dans cette situation-là. Et si quelqu'un, ce matin, ne connaît pas encore la remise de la dette, le détournement de la colère de Dieu par un substitut, le Sauveur Jésus-Christ, eh bien, repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés à Dieu. Croyez en Jésus-Christ qui seul peut nous sortir de cet état de perdition. Est-ce qu'on pourrait être content d'être dans notre état naturel? Est-ce que vous pouvez être content d'aller en enfer? Non, évidemment. Deuxième domaine duquel nous devons ne pas nous contenter, c'est dans une situation qui déshonore Dieu. Or, c'est vrai que dans notre état extérieur, on devrait se contenter de tout état, sauf si nous sommes contraints ou conduits à déshonorer Dieu. Si notre métier, par exemple, nous oblige à enfreindre les ordres de Dieu, et ainsi à travailler pour le péché, ou en péchant, disons, nous ne devons pas nous en contenter. Ne cherchons pas non plus la compagnie des personnes qui rejettent Dieu. Parce qu'il y a un double danger à vivre parmi les hommes pervertis. Je ne dis pas d'être une lumière où Dieu nous place. Je dis vraiment vivre avec, de prendre du temps, de se laisser influencer, etc. Parce qu'il y a un double danger. Le premier, c'est d'être infecté. Et deuxièmement, c'est de subir le jugement avec eux. En mettant une pomme saine dans un panier de pommes pourries, essayez si vous n'avez jamais essayé. Vous verrez. Ce n'est pas la pomme saine qui va influencer les autres pommes. C'est la pomme saine qui va pourrir. Et deuxièmement, on court le risque d'un châtiment, comme j'ai dit, comme Lot, qui a vécu parmi les païens et qui a tout perdu par le châtiment de Dieu. Donc le premier domaine que nous ne devons pas nous contenter, c'est d'être dans notre état naturel qui mène en enfer. Deuxième, être dans une situation qui déshonore Dieu. Et le troisième, de ne pas nous contenter lorsque nous ne progressons pas dans la grâce. On ne doit pas se contenter lorsqu'on stagne dans notre vie chrétienne. En fait, nous sommes appelés à chercher toujours davantage la grâce. Paul, qui a appris à être content en toutes circonstances, a aussi dit ceci. « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dans Philippiens 3, 13. En fait, le vrai chrétien grandit en bonté. Il grandit en douceur. Il grandit en force. Le chrétien grandit dans l'exercice de la grâce. En fait, le croyant ne doit pas se contenter d'un minimum de vie chrétienne. Si on est appelé à se contenter d'un minimum de bien, on n'est pas appelé à se contenter d'un minimum de vie chrétienne. Et si nous sommes dans cette situation où nous nous contentons d'un minimum de vie chrétienne, ben venons vers Christ. Demandons-lui, mais Seigneur, aide-moi, je veux grandir, je veux progresser avec toi. Et en lisant sa parole, en étudiant, en cherchant sa face, il a dit, cherchez, vous trouverez. Hein. C'est clair, c'est évident. Bon, après avoir compris que le contentement a une source, qui est Dieu, on a vu ça tout à l'heure, d'avoir compris que le mécontentement était vraiment quelque chose de mauvais, qui nous pousse à vraiment chercher le contentement, à l'apprécier encore plus, j'aimerais arriver dans cette dernière partie à voir avec vous le comment. On a vu la source, l'inverse, et comment, avec deux aspects. Le premier, on parlera de quelques traits de caractère d'un homme content, et puis on terminera par quelques pistes pour atteindre le contentement. Or, les traits de caractère, j'en donne cinq. Cinq traits de caractère par lesquels un homme à l'esprit content peut être reconnu. Premier trait de caractère d'un esprit content, moi je me réjouis parce que j'aime bien parler du contentement, c'est tellement bon le contentement. Il ne dit rien contre Dieu. Ça, c'est un trait de caractère de quelqu'un de content. Il dit rien contre Dieu. L'homme content n'a pas une parole à prononcer contre Dieu. Il écrit dans Psaume 39:10, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Un deuxième trait de caractère de l'homme content, c'est qu'il est actif et joyeux. En fait, un chrétien content n'est pas seulement passif. Il ne se contente pas de supporter sa croix, mais il s'en charge. Il voit la sagesse de Dieu en toutes choses. Ainsi, il peut vivre dans la joie. Parce qu'il voit Dieu à l'œuvre. Il ouvre les yeux puis il dit « Ah, voilà Dieu !»« Ah, voilà Dieu !»« Ah, voilà Dieu !» Vous voyez ? Et c'est ainsi qu'il peut vivre dans la joie. Troisième trait de caractère, il a de la reconnaissance. Quelqu'un qui est content a de la reconnaissance. C'est un trait de caractère de l'homme content. Hein, il a de la reconnaissance. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Ça veut dire toi, à quoi rendre grâce, tu sais ? Ça veut dire dire merci. Être reconnaissant. Rendre grâce. Hein. On utilise un peu moins. On ne dit pas vers quelqu'un « je te rends grâce ». On dit « je te remercie, je suis reconnaissant ». Mais c'est la même chose. Ok ? Quatrième trait de caractère de l'homme content, c'est qu'il n'est pas ébranlé par les circonstances. Il n'est pas ébranlé par les circonstances. Il dit que Dieu choisisse le médicament qu'il juge bon et qu'il l'applique aussi longtemps qu'il lui plaise. Je sais que lorsque ce médicament aura fait son œuvre et ôté le venin du péché de mon cœur, Dieu le retirera. Vous comprenez bien que le contentement est lié à la confiance hein, de l'œuvre de Dieu, évidemment. Le chrétien content étant merveilleusement captivé par l'autorité de la parole, désire être entièrement à disposition de Dieu. Il accepte de vivre dans la place où Dieu le veut, dans le climat où Dieu veut. C'est pour cette raison qu'aucune condition ne prend le cœur content à contre-pied. Si on est content dans tout état, ben il n'y a pas de situation qui peut nous rendre mécontents. Parce que notre contentement, on a vu la source, elle n'est pas dans nos circonstances, elle est en Dieu. Cinquième trait de caractère, il ne recourt pas au péché pour sortir de la difficulté. L'homme content ne recourt pas au péché pour sortir d'une difficulté. Or, il est bien clair qu'on ne va pas se complaire dans une difficulté, hein, même si on sait qu'elle vient de Dieu. Mais le chrétien content ne va pas recourir au péché pour sortir de sa condition. Sinon, il amène le mal sur son âme. Et ce n'est rien d'autre que de l'incrédulité et de la rébellion qui amèneront, évidemment, le mécontentement avec. Donc là, ce qui est important aussi pour le chrétien de comprendre, il ne va pas à tout prix chercher de sortir de sa situation difficile ici dans le monde présent, il va chercher des moyens, évidemment, des moyens qui sont légitimes, qui sont bons, qui sont justes, hein, et même de l'aide, et même nous allons aider des gens à sortir de difficultés, et c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il a conscience que le plus important, c'est une délivrance éternelle. La délivrance éternelle est encore plus importante qu'une délivrance temporaire. C'est pourquoi vous connaissez Hébreux 11, hein, c'est un peu le tableau des héros de la foi que l'on dit. Eh bien, ils n'ont pas accepté la délivrance temporelle afin d'obtenir une résurrection meilleure. Vous voyez jusqu'où ils sont allés en fait. Ils étaient prêts à dire, non, on ne veut même pas être délivré maintenant pour être délivré pour l'éternité. Vous voyez jusqu'où ça va ? Je suis content en Dieu de ce qu'il me donne maintenant. Je suis prêt même à rester dans cette souffrance si Dieu le veut. Si Dieu veut m'en sortir, ben je lui dis merci, évidemment. Parce que j'ai une délivrance meilleure. comme beaucoup de chrétiens persécutés aujourd'hui. Combien de centaines maintenant de frères et sœurs sont en prison et ils préfèrent rester en prison que de renier leur Seigneur. Pour plusieurs, il leur suffirait de dire « Ok, ben Jésus, c'est pas Dieu. » La porte de sortie est là. Ils préfèrent rester dans cet état-là parce qu'ils comptent sur une délivrance plus grande. Voyez cette notion du contentement en Christ. Or, il est clair que dans la chair, on ne peut pas vivre une stabilité absolue dans tous ces domaines. Mais nous devons y tendre et chercher à avoir un esprit content. J'aimerais vous donner quelques pistes pour atteindre le contentement. Le contentement, c'est art divin, possible en Christ. L'apôtre Paul témoigne, si vous regardez le début du passage, c'est « J'ai appris à être content », c'est vrai, mais il termine en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis, je peux. Ce n'est pas au-delà de ce qui est possible. Donc si aujourd'hui vous dites « Ah, mais ça c'est Dieu, moi je ne peux pas le faire », je dis « Attendez, mais ça contredit ce que la Bible dit. » « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, sur la petite feuille que vous avez pu prendre, il y a 18 propositions pour nous aider à atteindre le contentement. On ne va pas les prendre les 18, n'ayez crainte, on va juste en prendre quelques-uns maintenant. Je vais en souligner l'un ou l'autre, quelques pistes. La première, c'est favoriser la foi. Ça, je crois qu'on l'a déjà compris aujourd'hui. Favoriser la foi. En fait, tous nos troubles et nos inquiétudes et notre mécontentement proviennent de l'incrédulité. C'est un élément de base, c'est clair. C'est le vent qui soulève les tempêtes du mécontentement dans nos cœurs. La foi, au contraire, réduit les doutes au silence, chasse les craintes, apaise le cœur. Alors, comment la foi produit-elle le contentement? Eh bien, elle montre à l'enfant de Dieu que ses épreuves, quelle qu'en soit la nature, viennent d'une main paternelle. Dieu me corrige avec le même amour qu'il me couronnera. La foi récolte aussi, ça je vous l'ai dit la dernière fois, j'aime bien cette image, la foi récolte le miel du contentement dans les ruches des promesses de Dieu. Christ, c'est la vigne, les promesses sont les grappes qui poussent en lui. Et la foi, de nouveau une image, presse le jus du contentement à partir de ces grappes des promesses. Favoriser la foi pour vivre le contentement. C'est-à-dire chercher à fixer ses pensées sur les promesses de Dieu et non pas sur ce que nous pourrions penser ou ce qu'on pourrait nous dire. Favoriser la foi. Deuxième piste, vivre en bonne relation avec Dieu. Vivre en bonne relation avec Dieu. Cherchons à vivre une relation paisible avec Dieu. Cherchons à pouvoir dire, c'est mon Dieu, on a une relation ensemble qui est bonne, qui est saine. Celui qui peut dire, je sais en qui j'ai cru, a tout ce qu'il faut pour être content, parce qu'il a accès à l'éternité. David, vous vous souvenez du roi David, avant qu'il soit roi. Un jour, il était dans une situation vraiment très 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 difficile. Son camp avait été incendié, sa famille avait été emmenée captive, et il semblait même que ses hommes voulaient le lapider. Situation quand même assez difficile. Eh bien, David, s'il a pu sortir de cette situation-là, c'est parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Il possédait la base du contentement, sa relation avec Dieu, et ça a été un pilier qui l'a soutenu. La relation avec Dieu vous permettra de passer des épreuves telles que David, qui est absolument terrible, en n'étant pas dans le mécontentement, dans le mépris ou dans une crise quelconque, mais en se confiant en Dieu qui, lui, a pris la situation et l'a délivré de cette situation. Donc, favoriser la foi, vivre une bonne relation avec Dieu. Troisième piste que j'aimerais souligner, avoir un esprit humble. Celui qui est humble ne voit pas la tristesse de son bien-être, mais l'énormité de ses péchés et la miséricorde de ne pas déjà se trouver sous le jugement. En fait, quand on se rend compte de qui nous sommes, des pécheurs qui devraient être jugés par Dieu, c'est ça l'humilité, c'est s'en rendre compte vraiment, pas juste théoriquement, ok, mais vraiment s'en rendre compte. Et de se rendre compte de la grâce de Dieu, mais vous ne pouvez que être content. C'est juste extraordinaire. Avoir un esprit humble. Il est content de tout ce qu'il reçoit de Dieu, parce qu'il se sait indigne. Chaque chose qu'on reçoit de Dieu, c'est indigne. Le fait qu'on soit en bonne santé, on est indigne de cela. Le fait qu'on a pu se déplacer pour venir ici, on est indigne de cela. mais on en est tellement reconnaissant. C'est comme ça qu'on vit dans le contentement. Quatrième piste pour atteindre le contentement. Garder une conscience purifiée. Parce qu'en fait, quand on est coupable, quand on se sent coupable, eh bien, il est aussi naturel à la culpabilité d'engendrer le contentement, le mécontentement, qu'à la pourriture d'attirer la vermine. Tu as déjà vu quand il y a de la pourriture, tout de suite il y a de la vermine. Eh bien, quand il y a de la culpabilité, quand il y a des péchés non confessés, ben, tout de suite il y a la vermine mécontentement qui arrive. La poussière dans l'œil fait pleurer et engendre une irritation. Et si le péché s'introduit dans la conscience, qui est l'œil de l'âme, alors l'inquiétude et les mécontentements s'y logent aussi. En revanche, si l'œil de la conscience est clair, tout va bien. Celui qui a dit être content dans l'état où il se trouvait, dit aussi, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Cherchez à toujours avoir une bonne conscience. Si votre conscience est en train de vous reprendre maintenant, confessez votre péché. Soyez libérés de cela. Ce n'est pas possible de vivre le contentement en étant dans une situation où on ne confesse pas ses péchés. Ce n'est pas possible. Garder la conscience libre de toutes les obstructions de la culpabilité, c'est le meilleur moyen de conserver le contentement. Une dernière piste pour atteindre le contentement que je vous propose, il y en a encore 13 autres sur les petites feuilles, mais c'est prier beaucoup. Prier beaucoup. Implorons Dieu qu'il agisse en notre cœur pour produire ce saint contentement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-il écrit dans Jacques? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire. C'est écrit dans Jacques. Jacques 5, 14. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Point d'interrogation. Réponse. Qu'il prie. C'est la Bible. Est-ce que la Bible dit? C'est vrai. De même, si l'un de nous est mécontent, qu'il prie. Lorsque les douleurs et l'inquiétude emplissent le cœur, la prière permet à notre cœur de s'épancher. On a besoin de dire nos souffrances. C'est normal. Mais ne les disons pas autour de nous avec tout le mécontentement qu'on y met avec. Disons-le à Dieu. Prions, épanchons-nous, n'ayons pas peur de ça. Comme dit Watson, la prière est une clé qui, huilée par les larmes, ouvre le cœur pour le libérer de tout son mécontentement. Par la prière, l'âme se soulage de tous ses soucis en les remettant à Dieu. C'est ainsi qu'un doux contentement peut y pénétrer. Combien de personnes vont consulter toutes sortes de spécialistes qui en fait ne font que les écouter, parce que les gens ont besoin de dire. Mais dites-le à Dieu, il entend. Et non seulement il nous entend, mais il agit et il nous donne sa paix. Saisissons les promesses qu'il nous donne dans sa parole. C'est les meilleurs médicaments. Paul pouvait être content en tout état où il se trouvait. Toutefois, afin de nous montrer que sa capacité ne venait pas de lui-même, il nous dit que même s'il pouvait être dans le besoin et dans l'abondance, même s'il pouvait faire toutes ces choses, c'était parce que Christ le fortifiait. Je puis tout par celui qui me fortifie. N'oubliez pas, ce texte, on l'a des fois dans notre tête. Je puis tout par celui qui me fortifie pour toutes sortes de sujets. Mais le sujet duquel la Bible parle quand ce texte est dit, c'est le contentement. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous arrivons à la conclusion. Donc, la dernière fois, nous avons appris ce qu'était le contentement. Nous avons cherché à comprendre qu'est-ce qu'était le contentement. Nous avons cherché à savoir pourquoi être content. Aujourd'hui, nous avons parlé de la source du contentement. Nous avons même parlé de l'inverse pour voir que c'est absolument terrible. J'espère que vous avez compris le mécontentement, pour qu'on aime ce contentement. Et nous avons aussi cherché quelques moyens qui nous y amènent. Paul disait au verset 11, « J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. » Puis c'est vrai que chaque fois que j'y réfléchis, mais c'est quand même génial d'être content. Franchement. Vous avez déjà réfléchi? Quand vous êtes content, vous êtes bien, non? On est heureux. Cherchons ce contentement. C'est tellement bon. Dieu aime nous voir contents. Parce que Dieu aime que nous soyons bien. Dieu est tellement bon pour nous. Le contentement n'a aucun effet secondaire négatif. Il diminue notre souffrance et il nous remplit d'espérance dans la délivrance finale. Que l'Éternel nous donne la joie et les fruits paisibles d'une vie de contentement qui se nourrit des promesses de Dieu. Et j'aimerais terminer par deux lectures de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18 et 1 Timothée 6, 6, que je lirai à la suite. Donc 2 Corinthiens 4, 16 à 18 et 1 Timothée 6, 6. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions d'avoir inventé le contentement. C'est tellement bon. Oh, nous te remercions Seigneur, parce que non seulement c'est toi qui l'as mis en place, mais tu en es la source. Tu es celui qui nous y guide. Tu es celui qui nous ramène dans ce contentement. Tu es celui qui nous délivre du mécontentement. Oh Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Et nous voulons, à la suite aussi de Paul qui vivait selon son divin modèle, Jésus-Christ, que nous voulons suivre. Nous voulons dire avec lui, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Seigneur, permets que ce ne soit pas une phrase qui soit volatile, mais que ce soit réel dans nos vies, que nous désirions réellement apprendre à être content dans l'état où nous sommes. Que ce ne soit pas un vœu pieux, mais que ce soit, Seigneur, une réalité dans chaque situation. Que ce soit face au temps qui passe, où nous nous demandons comment nous arriverons à terminer quelque chose, que ce soit lorsque nous sommes dans la situation d'accueillir des personnes, lorsqu'il faut faire des devoirs, lorsqu'il faut encore ranger le ménage, lorsqu'il faut encore répondre à des téléphones. Enfin, Seigneur, que là aussi, nous puissions apprendre à être contents dans l'état où nous nous trouvons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes conscients que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Mais Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants parce que comme la foi que tu nous donnes, eh bien, le contentement, tu nous le donnes également. Et nous voulons le saisir, Seigneur, le saisir par la foi. Oh, je te prie que chacun, nous puissions entrer dans ce chemin du contentement qui manifestera aussi clairement l'évangile de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous sommes pardonnés, purifiés, que nous comprenons l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, que nous comprenons que nous avons un Père éternel qui s'occupe de nous à chaque instant, que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons bien plus de valeur que les oiseaux du ciel de qui tu t'occupes, même s'ils ne sèment ni ne moissonnent. Seigneur, nous entrerons dans un saint contentement. Oui, Seigneur, nous voulons entrer dans ce contentement qui te glorifie. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être content de nos états léthargiques lorsque nous ne progressons pas avec toi. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer toujours plus. Merci pour chacun ici présent, Père. Merci parce que tu désires que chacun puisse vivre ce contentement. Et bien que cela soit le cas, par ta grâce et pour ta gloire, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.